on s'en va dans Jean 15. C'est quoi, toutes les fois que je dis Jean, là, je pense tout le temps à Jean dit « touchez vos sourcils ». Là, je viens de le dire. Touchez vos sourcils?
Oh non, pas
faire. Ah, j'ai pas dit Jean dit! Mylène, Pascal, pis Jessica, t'as-tu mis ça?
J'ai rien compris, mais...
Vous êtes éliminés! Alors, on se moque des nouveaux, on est vraiment pas fin. Mais c'est très anormal, on est toujours très sérieux ici. On ne fait jamais de sarcasme ou de mauvaises blagues.
On est pas
c'est passé
le
pourtant.
Ouais, mais...
Ça va être la nouvelle
norme. Ah, ouais, c'est ça. Pour nous, là, c'est ça. L'état normal, c'est de pas être normal. Si vous voyez qu'on est drabe et tout ordinaire, vous dites, il y a quelque chose qui marche pas. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Si vous me voyez trop au sérieux, là, ça marche pas. Jean 15. On va lire les 16, les 17 premiers versets. Ah, c'est beau, Jean 15, et on lit ensemble. Jésus ici, hein, c'est dans le discours de la chambre haute. Un moment très intime et fort, dans un moment très tendu. On s'approche beaucoup de la croix rendue là. Alors, on peut lire au verset 1. Je suis, Jésus ici parle, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé et que je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, on commence une série sur notre vie victorieuse en Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça va être une introduction, un peu un survol d'où est-ce qu'on s'en va avec l'ensemble de la série. Et on a lu un passage bien important sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Mais juste pour vous dire, ça fait longtemps que ça me mijote dans le cœur d'amener une série vraiment à proprement parler sur notre union avec Christ. Et ma femme aussi me demandait, hey, c'est quand tu vas faire une série là-dessus? Puis là, par la direction divine, je suis tombé sur... c'est des DVD là. C'est une série d'études, c'est des gens qui ont fait des rencontres là, puis c'est sur vidéo. Ça s'appelle Freedom in Christ, la liberté en Christ. Et je dirais que c'est l'élément que ça s'est servi pour me pousser à passer à l'action. D'ailleurs, si vous voulez ça, on vous repassera peut-être un CD à la fois parce que nous aussi, on le regarde en tout cas. Moi, je l'ai tout regardé, là. Mais c'est du bon matériel. C'était en anglais par contre, là, mais bon. Mais évidemment, sans que je fasse du copier-coller de ce qui est sur les vidéos, je veux quand même suivre le pattern, puis je vais vous expliquer ça dans un instant, c'est quoi le pattern. Il y a 10 sessions qui sont données, tout ça. Mais aussi, j'ai d'autres ressources. Justement, John Van Gelderen, qu'on va aller voir à la conférence, il a écrit plusieurs livres qu'il a écrit, mais il y en a un que c'est bon par rapport à bien expliquer clairement tout c'est quoi cette union-là qu'on a avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et donc, je vais un peu me servir de tout ça. Puis, j'aimerais vraiment l'idée qu'on explore ensemble, c'est quoi que ça veut dire d'être uni à Christ dans sa mort, sa résurrection, son ensevelissement et sa résurrection. Et donc, sans plus d'éléments d'introduction, je veux juste vous donner aujourd'hui trois éléments essentiels qu'on a besoin là, de comprendre par rapport à c'est quoi là, cette vie victorieuse. Puis, vous allez voir, il y a des choses très importantes qu'on va considérer en introduction à cette série. Trois éléments essentiels par rapport à notre vie victorieuse en Jésus-Christ. Ou si vous voulez, les fruits de notre union avec Jésus-Christ. La première chose, savez-vous que c'est la grande révélation du Nouveau Testament? Hey, là, ça m'énerve, là. Les deux Maxime, j'en vois une, je vois pas.
Oh.
Le plus beau ou le plus laid, je vois, en tout cas. Vous direz pas c'était lequel? La chose, il bouge tout le temps. La plus grande révélation du Nouveau Testament. Ici, dans Jean, où est-ce qu'on vient de lire dans Jean 15, c'est la première fois où Jésus-Christ révèle avec clarté et puissance la doctrine de notre union avec lui. C'est pas qu'il n'en a pas référé puis parlé à d'autres endroits, mais sa vie en nous, ses paroles en nous, puis tout, okay, puis toute notre relation avec lui, le Père, puis les uns les autres, c'est donné ici. Je dirais qu'en essence, on a la version pure et imagée de ce que Paul décortique en beaucoup plus de détails dans Romains 6, 7 et 8. Mais ici, c'est la même doctrine. Mais c'est dans les évangiles, c'est Jésus qui la donne comme il savait le faire, d'une façon simple et claire, avec une image, comme il aimait bien le faire, ici, la vigne. Donc ici, de quoi il est question? De notre union organique. C'est comme, tu sais, justement, ici, c'est une plante, hein, où est-ce que la sève va part des racines, va dans le tronc, les branches, puis ça porte du fruit. Mais c'est ça, notre union avec Jésus-Christ. C'est pas nous qui essayons de faire de quoi, c'est sa vie qui porte du fruit. OK? Puis l'idée, c'est quand on est attaché à lui, on porte le fruit de sa vie. OK? Puis quand je dis que Paul a développé ça, par exemple, là, je dirais que le verset qui résume le mieux comment Paul en parle, c'est dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, notre mort. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, la résurrection, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je vis, donc la mort, la résurrection. Et si je vis encore dans la chair, là, dans le corps dans lequel je vis dans la foi. Ah, ça c'est super important. Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc ici, on a une belle image. On a cette grande vérité résumée dans un verset. Mais vraiment, la version la plus détaillée, je dirais, c'est Romains 6, 7 et 8, mais spécialement 6. Je vous donne juste les éléments comme ça. Évidemment, on va développer à travers la série beaucoup plus en détail. Et ça, j'aimerais vous dire, mes amis, ce qu'on va considérer, c'est unique au Nouveau Testament. C'est un mystère qui était caché dans l'Ancien. Il y a des images de Christ dans l'Église, dans l'Ancien Testament, Christ et l'Église, puis tout ça. Puis, des images végétales aussi, comme la vigne de l'Éternel, puis tout ça. Mais il n'y a rien qui va... C'était une révélation qui était gardée, qui a été révélée en Jésus-Christ, parce qu'elle est rattachée à son incarnation et, à, évidemment, sa crucifixion, sa résurrection, puis même jusqu'à son ascension, parce qu'on nous sommes assis en ce moment avec Christ dans les lieux célestes. On est unis à lui dans tout ça. Puis comme Christ a pris un corps, on l'a vu ce matin, nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'incarnation de Christ ici sur terre. OK? Donc, on est unis à lui à tous les niveaux. Je veux juste vous donner quelques petites références avec ce que je viens de vous dire pour vous assurer que je n'ai pas pris ça là, en me levant ce matin de mon imagination. Dans Colossiens, par exemple, verset 1, 18 à 21, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier avec lui tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Ça, c'est les bénéfices de notre co-crucifixion avec Christ. Écoutez aussi Romains 8, 3. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » On n'était pas capable de se sauver nous-mêmes, d'essayer de faire les choses qu'on a à la loi pour essayer d'offrir ça à Dieu comme un sacrifice suffisant pour être réconcilié avec lui. Donc, c'était impossible, parce que la chair la rendait sans force. « Dieu a condamné le péché dans sa chair en envoyant, à cause du péché, son Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Encore une autre référence dans ce sens-là. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il vous a ressuscités ensemble. Il vous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Okay? Fait qu'on voit vraiment de l'incarnation jusqu'à l'ascension, notre union avec Christ. Ça dit aussi, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Okay? C'est toutes des références qui ont rapport à cette doctrine de notre union avec Christ, dans sa mort, son assouvissement, sa résurrection, son ascension, sa coronation. Ces vérités sont extrêmement précieuses. Peut-être que vous n'en rendez pas compte, mais c'est pour ça qu'on prend le temps pour qu'on se rende compte à quel point c'est la clé de la victoire. Qui a écouté ici le message de Josephson? En fait, qui ne l'a pas écouté? Parce que je vais vous l'envoyer si vous ne l'avez pas écouté. Josephson, c'est en anglais. Vous l'avez, ceux qui lèvent la main, vous ne l'avez pas écouté?
Non.
Bon, il faut que je vous l'envoie. Parce que c'est vraiment très... Comprenez-vous l'anglais?
Oui.
Parce que, bon, sinon, c'est en roumain, là. C'est un peu plus compliqué, là, mais...
Mais est-ce qu'il est sur YouTube?
Oui, mais je vais vous envoyer le lien YouTube.
C'est parce qu'on peut mettre les paramètres aussi avec le sous-titre français,
mon ah, père, bon.
Si on l'a sur YouTube.
Oui, oui, oui.
C'est plus facile.
Oui.
Dans... C'est pas en anglais.
OK. Merci, Raphaël. On prend ça en note. Le message, dans le fond, c'est un message, mais c'est aussi son témoignage, qui, lui, bon, a été dans un environnement très hostile dans la Roumanie communiste de l'époque. Il est parti de l'Angleterre où il avait étudié, puis il est retourné. Puis pourquoi qu'il avait ce courage, pourquoi qu'il avait... C'est lui-même qui l'explique, il dit, il y a deux grandes vérités que le Seigneur s'est servi, la souveraineté de Dieu, puis notre union avec Christ. Puis ce qu'il nous explique là-dedans, il dit... La doctrine que Dieu nous a donnée pour la victoire sur le péché de la peur, la crainte des hommes, de tous les péchés, c'est cette union avec Christ dans sa mort. Parce que c'est ça la victoire. Il a remporté la victoire. Nous vivons dans cette victoire. Puis on est appelé à vivre par la foi dans cette victoire. C'est ça, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, c'est ça qu'on va ensemble développer, là, comme un cadeau. On va le développer ensemble. Mais là, je vais développer un peu plus, je me dis, c'est une grande vérité, puis tout ça qui est propre au Nouveau Testament, mais les fondements vont à partir de la Genèse. Je prends le temps de vous expliquer quelque chose que j'ai déjà expliqué un peu auparavant, mais sur lequel je vais revenir dans la série, puis que là, je vous donne juste vraiment en essence. Jésus est venu pour restaurer ce qui était perdu, sauver, chercher ce qui était perdu, puis il a redonné par sa rédemption ce qui avait été perdu dans le Jardin d'Éden. Il y a trois choses fondamentales que nous avions en Éden. Nous étions acceptés par le Seigneur. Parfaite communion, pas de rejet, l'homme marchait avec Dieu. On était en sécurité. On n'était pas menacé d'être tiré en dehors. On était sécure. Et on avait une vie significative. C'est-à-dire, Dieu avait donné un but à l'homme. C'était pas genre, ben là, t'es dans le jardin, puis assis-toi sur le bord de l'arbre, puis attends. Non, non. Il avait donné de cultiver, puis tout ça. Bon. Donc, il y avait l'acceptation, la sécurité puis une vie significative, c'est les trois besoins fondamentaux que nous avons en tant qu'humains. Et en tant que chrétien, Jésus est venu restaurer ça parce qu'à cause de la chute, on l'a perdu. Mais en Jésus-Christ, on le retrouve. Mais même en tant que chrétien, on peut tomber dans des pièges d'idolâtrie où est-ce qu'on va chercher notre acceptation des hommes, par exemple. On va chercher notre sécurité dans nos possessions ou des relations humaines. On va chercher à avoir une vie significative dans la position qu'on a, le standing social, les activités que nous faisons. OK? C'est des formes d'idolâtrie d'aller chercher en dehors de en Jésus-Christ que nous avons pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Et ces besoins-là fondamentaux, c'est en lui qu'on les a, qu'on les retrouve. Et on va développer ça pas mal quand même en détail. C'est très, très important. Je vous le donne en bribes, là, mais ces trois choses-là, on va y revenir. Ça nous amène au deuxième élément sur notre vie victorieuse en Jésus-Christ, parce que tout ça, ça se passe dans un contexte de guerre. Je viens de parler de la chute. J'ai parlé de Jésus-Christ. Jésus est venu, homme de douleur, accoutumé à la souffrance. Il est venu dans un monde hostile, il a été crucifié violemment. Et nous sommes dans un monde hostile. Mais la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, toutes les autorités. Il y a une hiérarchie qui est nommée dans les lieux célestes. Et le combat est spirituel contre des forces spirituelles dans le domaine des pensées. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment renverser ce processus de conformité au siècle présent pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça qu'on va développer ensemble avec cette doctrine bénie. Donc, ça m'amène au deuxième point. Non seulement c'est une doctrine qui est unique au Nouveau Testament, mais aussi c'est une guerre spirituelle pour le contrôle de nos pensées. Une guerre spirituelle pour le contrôle de nos pensées. La série Freedom in Christ suit le pattern suivant, puis je vais pas mal m'inspirer d'éléments de ça, parce que c'est très simple, c'est vraiment bien fait. Les sessions 1 et 2 regardent les vérités et les faits fondamentaux quant à ce que c'est quoi notre identité en Jésus-Christ. Être sauvé, ça veut dire quoi? Dieu nous a donné une nouvelle identité. Nous qui étions morts dans nos offenses et nos péchés, nous a donné la vie, puis tout ce que ça veut dire. Et ça, c'est des faits que nous sommes appelés à croire. On les a acceptés, puis c'est comme ça qu'on est rentré dans la famille de Dieu, mais il reste toujours vrai. Et pour nous, dans notre marche, on doit se nourrir de ça et constamment se rappeler que ce sont des faits. Puis les sessions 3 à 5 nous montrent comment nos trois ennemis, c'est qui nos trois ennemis?
La chair,
le monde, puis Satan. La chair, le monde, le diable. Nos trois ennemis s'attaquent à ces vérités-là. Pour pas qu'on y croit, de travers. Okay? Ils veulent contrecarrer les faits de l'œuvre de rédemption de Christ. Ils vont essayer de les contrecarrer. Notre chair veut aller à l'inverse. Notre chair elle prend pas plaisir à Dieu. Elle ne peut même pas. Le monde a une vision, une compréhension des choses, cherche des choses, cherche la sécurité, une vie significative, puis l'acceptation d'une façon qui n'est pas biblique. C'est une vue du monde, a world view, on dit, qui n'est pas biblique. Et Satan, puis bon, notre chair fait des choix, puis tout ça, donc le monde, la chair, puis Satan s'attaque à nos pensées. Dieu, as-tu vraiment dit ça? Il veut semer le doute. Dieu, as-tu vraiment dit ça? C'est-tu vraiment? Ça peut pas être aussi simple que ça. Oui, oui. Fait qu'on va développer ça, nos trois ennemis. Et pour nous, simplement, pour répondre à ces trois ennemis, on est appelé à répondre par la foi au fait que Dieu a dit. Mais si on ne le fait pas, si on ajoute foi à ces mensonges, si on croit les tromperies, ben là, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si on vient ça de bord, si on croit le mensonge va nous rendre esclaves. Oui. Donc, qu'est-ce que ça fait à long terme quand on croit des mensonges, puis qu'on vit selon ces mensonges-là? Non seulement on devient esclave, mais à un moment donné, ça fait des forteresses dans notre vie. C'est pour ça que ça parle de renverser les forteresses. Des forteresses, c'est des choses qui ont été établies dans notre vie à force de croire des mensonges. Puis on se les approprier comme si c'était la vérité, alors que c'est des mensonges. C'est vivre selon des mensonges. OK? Par répétition à long terme. Et évidemment, à cause de ça, les sessions 8 et 9 de cette série, ben, ça parle comment renverser les forteresses. En apprenant selon la parole de Dieu, d'abord à gérer nos émotions. Vous savez que ça, ces choses-là, on ne sent pas tout le temps de même. « Ah, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » On s'en parlera mardi matin. Bon. On ne se sent pas toujours de même. Puis tu dis, oui, « Seigneur, je ne me sens pas de même. » C'est pour ça que ça ne change pas les faits. Tu sais, je suis marié, j'ai deux enfants. Mais des fois, là, mettons, je suis découragé une journée, puis, bon, peut-être pas le bon exemple, je me sens pareil comme un mari puis un père, mais je sais pas, là, mettons, le pasteur de l'église. Mais, tu sais, c'est pas parce qu'on sent d'une façon que ça va nous définir, ça va rechanger les faits.
Ouais.
Ah, ben, regarde, un bon exemple de nos jours. Ah, moi, je me sens comme une fille. Hein, ça change pas que t'es un homme. T'as beau te sentir d'une façon, ça ne change pas les faits. Mais c'est ça aussi avec ce que Dieu a fait de nous. C'est pas basé sur nos émotions, mais sur les faits de la parole de Dieu. Aussi, une affaire tellement importante, pour notre job, pardon, on va en parler encore plus, exercer le pardon. C'est tellement la clé pour renverser des forteresses. Souvent, on est pris, on esclave parce qu'on ne pardonne pas. On a eu mal, puis on n'est pas capable de pardonner. Et on n'a pas ça en nous, mais par la grâce de Dieu, ça fait partie de cette victoire. Dieu nous donne la capacité à pardonner même les pires choses. Et évidemment, il y a aussi toute la question de vivre la transformation de l'intelligence que Dieu opère par sa parole, par son esprit dans ses enfants. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. Donc, c'est comme ça que les forteresses sont renversées. Et finalement, les deux dernières sessions, ils terminent en disant comment tout ça, ça se traduit dans mes relations interpersonnelles. C'est pas juste moi dans mon petit coin, puis « oh, j'aime Jésus, puis je suis seul chez nous. » Non, c'est facile d'aimer Jésus tout seul chez vous, mais des fois, avec des gens tannants, têtus, méchants, c'est un peu plus dur. Ben, la Bible nous montre exactement comment ça se traduit dans le quotidien. Et on va aussi considérer ça ensemble. J'aimerais juste vous dire, j'espère qu'on va pas péter votre balloune, mais il n'y a pas de formule magique. Eh oui. Mais c'est une guerre spirituelle avec plusieurs batailles. Mais la bonne nouvelle, c'est l'évangile aux saints, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. C'est vrai, c'est pas juste un beau verset de la Bible. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc la victoire, peut-être qu'on pourrait chanter ça tantôt, mais c'est pas nous aurons la victoire, c'est nous avons la victoire, puis on vit à la lumière de cette victoire. OK? Donc, on va tout regarder ça ensemble. Puis, je veux vous illustrer tout ça, ce point-là, avec un verset qui est dans Exode 13, 17. Ça dit, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, un peu plus loin que ce qu'on a considéré ce matin, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. » Donc, Dieu n'a pas fait prendre le peuple d'Israël un certain chemin. « Quoique le plus proche. » Donc, Dieu n'a pas fait prendre le chemin le plus proche. « Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Autrement dit, qu'il va y avoir de l'adversité, puis que ça va être difficile parce que le chemin est long, puis ça, ils vont virer de bord. Et je pense que c'est très significatif que l'Éternel nous fait passer par des, on pourrait dire, appeler ça des détours. Pour nous, c'est des détours. Pour Dieu, c'est son chemin. Et Dieu fait toujours ça dans un but bienveillant. Dieu ne veut pas nous rendre misérables. Dieu ne veut pas nous donner de la misère et dire « Ah, ouais, lui, là, sa vie est 3 millions. Je vais donner un peu de misère, là, ça va donner. » Dieu n'est pas comme ça. Dieu est bon. Et Dieu, quand il fait des choses, il poursuit un but bienveillant. Et dans Exode 13, ici, et pour nous aussi, c'est la même affaire, il voulait les protéger d'eux-mêmes. Ah, qu'ils avaient eu peur. Puis Dieu leur faisait, ici, apprendre des choses salutaires, des choses bonnes pour eux autres par rapport à leurs ennemis, les circonstances adverses et tout ça. Et quoi qu'il en soit, on peut, quoi que ce que Dieu peut envoyer, on peut avoir confiance en sa bonté, dans sa souveraineté, lorsqu'il nous décide de faire passer par quelque chemin que ce soit. On n'a pas besoin de s'appuyer sur notre propre sagesse, on peut le reconnaître dans toutes ses voies, puis lui, il va aplanir nos sentiers, que ce soit par n'importe quel sentier que lui nous fait passer. Donc, dans cette guerre spirituelle pour le contrôle de nos pensées, Dieu ne nous a pas tout donné cuit dans le bec. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on apprenne à dépendre de lui, à demeurer en lui. Et ça, mes amis, ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que nos pensées sont profondément ancrées. On est habitué de penser d'une façon, puis c'est comme le sillon est fait. Mais Dieu, ça fait partie de sa rédemption. Il change nos pensées, notre façon de penser. Ouais. Si vous êtes ici depuis un bout de temps, est-ce que ça se peut que vous ne voyez plus la vie de la même façon? Puis si c'est selon la Bible, c'est bien mieux. On n'a pas le goût de retourner en arrière, n'est-ce pas? Parce que en Jésus-Christ, c'est la liberté, c'est la joie, c'est la paix. C'est pas la perfection, parce que des fois, hein, on se lève, on peut retomber, puis tout ça, mais mes amis, l'essayer, c'est l'adopter. Satisfaction garantie. Ça coûte rien, fait qu'on peut pas remettre l'argent, mais on n'est jamais déçu avec Dieu. Et donc, on peut trouver notre plein contentement en lui. Comme Paul a dit, j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Et je l'ai dit ce matin, et je vais le répéter à plusieurs reprises dans cette série, tout est une question de focus. Et c'est peut-être pas, tant que c'est, moi, Elisabeth n'est pas là pour me reprendre, là, c'est peut-être pas la bonne expression française. Focus, c'est-tu anglais ou français? En tout cas, ici, on le dit au Québec, là, focus, c'est une question de sur quoi on se concentre. Parce que ce sur quoi je vais me concentrer, c'est de ça que je vais dépendre. Si je me concentre sur mes problèmes, sur moi-même, sur les autres, leurs problèmes, je vais dépendre de ça pour mon bonheur et les affaires, puis ça ne va jamais aller bien. Si je me concentre sur la bonne loi de Dieu pour essayer de performer, ou comment les autres performent ou ne performent pas, ça ne va jamais aller bien, parce que la loi est bonne, mais elle nous dit qu'il y a un problème, qu'il y en a tout le temps un problème. Mais je me concentre sur Dieu qui est plus grand que les problèmes. Dieu qui a vaincu la mort, mes ennemis, comme on a nommé tantôt. Que si je me concentre sur lui, je vais dépendre de lui, puis ça va porter le fruit dans ma vie. C'est vraiment une question de foi, de où je regarde, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ça amène au troisième élément, en introduction de notre série sur la vie victorieuse en Jésus-Christ. Non seulement c'est une doctrine unique au Nouveau Testament, c'est une guerre spirituelle pour le contrôle de nos pensées, mais aussi, c'est la plus précieuse des doctrines. Et je ne le dis pas, c'est vraiment la plus précieuse, c'est la culmination de la révélation biblique, mais c'est aussi la plus négligée, croyez-le ou non. Et c'est pas pour rien, parce que Satan sait que c'est la perle de grand prix, doctrinalement parlant. Je vous explique. Vu que c'est une guerre pour le contrôle de nos pensées, c'est un problème pour tout le monde de l'accepter, de vivre selon ça, parce que sinon, mes amis, puis je pense que c'est pour ça que les gens disent, écoute, il se passe de quoi? C'est parce que je pense qu'on fait simplement commencer à apprécier, à s'approprier ces vérités. C'est Dieu qui fait ça. Mais savez-vous quoi? Longtemps ici, comme église, on pensait, d'autres, on n'est pas comme les méchants ci, puis les méchants ça. Savez-vous, on est juste des méchants différents. Il y en a qui ont des tendances d'un bord, il y en a qui ont des tendances de l'autre, mais on a tous le même problème, et je vous explique. Dans toutes les églises, tous les milieux chrétiens, toutes les dominations, tout le monde, avec cette vérité la plus précieuse, la néglige et passe à côté de Christ de différentes façons. Nous sommes tous conformes au siècle présent de différentes façons. Pas totalement, là, je ne suis pas en train de dire que les églises n'ont pas Christ et tout ça, mais comme nous, on l'a expérimenté pendant plusieurs années, plein de bonnes intentions et tout ça, il nous manquait ça. On négligeait cette grande vérité. C'est la plus grande tromperie chez les chrétiens par rapport à la plus grande vérité de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que de la même façon que Satan voit l'évangile de la gloire de Dieu en Jésus-Christ au perdu, Satan aussi veut voiler l'évangile aux saints, la bonne nouvelle de la victoire en Jésus-Christ pour les enfants de Dieu. Donc c'est une guerre. Maintenant, comment ça se traduit? J'ai déjà touché à ça, mais je le répète parce que ça vaut la peine. Certains milieux se caractérisent. Vous savez, OK, on a parlé de nos trois ennemis, le monde, la chair, le diable. Puis on peut aussi les mettre autrement. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, puis l'orgueil de la vie. Convoitise des yeux, je vois, je veux. Un grand désir d'avoir. Convoitise de la chair, je veux faire. Lui, il y a ça, je veux faire pareil. OK? Puis l'orgueil de la vie. Moi, là, tu sais, je suis pas comme les autres, là. Les autres sont charnels. Moi, je l'ai compris, l'affaire. L'orgueil de la vie. OK? Je suis arrivé là. Mais les milieux chrétiens se caractérisent dans une de ces trois catégories-là. Certains milieux sont beaucoup à rechercher l'expérience. Ils voient des gens, puis ils veulent ça. OK, je vais être clair. Les milieux pentecôtistes, charismatiques, c'est le désir d'avoir. Les milieux baptistes, OK, puis désir d'avoir ce qu'on baptise des yeux. Les milieux baptistes, qu'on baptise de la chair. On veut faire fort, puis on se retrousse les manches, puis on va l'évangéliser, puis on va, tu sais, on va avoir 5. Moi, j'ai déjà entendu ça. On va amener 700 personnes au Seigneur cette année, puis let's go, on va faire. OK? Ça, c'est les milieux baptistes. Puis les milieux réformés, le désir d'être. On a compris, on a la bonne confession de ci, puis ça, puis on a mis. Puis c'est l'orgueil de la vie. Nous, on a compris. C'est quoi tout ça? C'est trois formes d'idolâtrie différentes, mais c'est toute idolâtrie. Ça passe à côté de Christ, notre vie. Parce que tu peux tout faire ça, mais passer à côté de celui qui est la vie de ce que tu fais là. Parce que c'est bon d'avoir la bonne doctrine, c'est bon de vouloir expérimenter la vie de Dieu, c'est bon de vouloir faire de notre mieux pour lui. C'est pas des choses mauvaises, c'est là la tromperie. C'est pas des choses qui sont mauvaises en tant que telles, c'est le focus. Si je dépends de ce que je fais pour ma vie chrétienne, si je dépends de ce que j'ai, si je dépends de ce que je suis, je ne dépends pas de Dieu. Si mon but dans la vie, c'est la liberté chrétienne, c'est bon la liberté chrétienne, n'est-ce pas? Mais Christ est ma liberté. Si je cherche la liberté comme une fin en tant que telle, je passe à côté de Christ qui est ma liberté. Si mon... mettons... La, la, la saine doctrine ou un zèle pour l'Évangile, si c'est ça mon but, je passe à côté de celui qui est le but. Comprenez-vous? Puis tout ça, ça nous dit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bon. Je veux juste amener un point important là-dessus. Je pense que j'ai pilé ses orteils à peu près tout le monde ici. Ouais. Je vais vérifier, là. Puis on a des, chacun dans chaque catégorie. Puis mon idée, c'est pas d'offenser, c'est juste d'amener la vérité dans laquelle nous sommes tombés chacun précisément. Pas la vérité, mais l'erreur, la tromperie. Et on ne devrait jamais se satisfaire des substituts, des recettes chrétiennes à la sauce pentecôtiste, à la sauce baptiste, à la sauce réformée. On ne devrait se satisfaire que de Christ et Christ seul. Pas Jésus plus, mais Jésus seul.
Amen.
J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis Christ est ma vie. C'est ça vraiment de quoi on va parler, c'est l'essentiel. Fait qu'on peut se poser la question, ok, où est-ce que je vais? À quelle porte je cogne pour trouver ma sécurité, ma signification, la signification, significance, signification, en tout cas, mon importance, on pourrait dire, puis mon acceptation.
Ma valeur.
Ma valeur, merci Geneviève. Ma sécurité, ma valeur, mon acceptation. C'est ça l'idée. Où est-ce que je vais? Il y a un seul endroit qui ne satisfait, qui ne manque jamais de satisfaire, c'est à Jésus-Christ. Donc, j'aimerais juste amener tout ça avec... c'est une longue conclusion, là, j'ai deux pages encore à couvrir, là, mais... Hein? Ah, ben c'est ça. Mais là, vous le savez. Non, mais là que j'ai amené les trois points, je vais amener les choses à ce point-là, à la lumière. Là. Dans le fond, on considère ce que Dieu a fait... pour nous, en Jésus-Christ. L'idée, là, c'est que si Dieu a fait de moi un enfant saint, un enfant de Dieu, né de nouveau, qu'est-ce que j'ai bien à faire avec les idoles? Si je connais le Dieu vrai et vivant, qu'est-ce que je fais? Pour ça, je vous lis ici 1 Jean, chapitre 5. Oups! Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des... Si on a le véritable, si on a le produit authentique, qu'est-ce qu'on irait faire avec la contrefaçon? Ou pour le dire autrement, si Dieu m'a donné la pensée de Christ, qu'est-ce que j'ai à faire avec celle du monde ou pour encore là? L'amener encore pire. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ceux qui marchent comme des païens dans la vanité de leur pensée, qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de son cœur et de leur cœur, ayant perdu tout sentiment et s'ayant livré au dérèglement pour commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Si j'ai la pensée de Christ, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Ou si j'ai une nouvelle nature? Si Dieu a pris mon cœur de pierre et m'a donné un cœur de chair par l'Esprit du Dieu vivant, qu'est-ce que j'ai à faire avec les passions et les désirs de ma chair? Si la nouvelle alliance est de dire que Dieu va prendre mon cœur de pierre, mon cœur qui ne veut rien savoir de Dieu, puis m'en donner un nouveau, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette vieille nature? Rien, comprenez-vous? C'est vivre à la lumière de ce que Dieu a fait. Comprenez-vous? Quand on prend le temps de s'arrêter, c'est les faits versus... Ça serait une folie d'aller ailleurs. Mais il faut les reconnaître par la foi, il faut les voir comme étant ce qu'on a de plus précieux parce que c'est ce que Dieu a fait dans notre vie. Voyez-vous, tout découle de notre appropriation par la foi de l'œuvre transformatrice de la grâce de Dieu. Et si vous êtes un enfant de Dieu, c'est déjà fait dans une façon, mais c'est quand même aussi en processus. On n'est pas parfait, mais déjà, on est accepté dans le bien-aimé. On est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Mais on n'est pas sauvé à moitié, là. On est sauvé parfaitement en Jésus-Christ.
Amen.
Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas appelé à essayer de découvrir ce que Dieu aurait caché à quelque part dans une sorte d'église ou à quelque part dans le monde qui va être enfin la solution pour régler mes problèmes, pour satisfaire mes besoins. Non, Dieu me l'a déjà tout donné pleinement. C'est tellement grand que ça demande de la découverte. Mais on l'a déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Il nous a déjà tout donné ça. Dans le fond, pour l'amener avec une image que ma femme m'a partagée dernièrement, Dieu nous appelle à aller à l'arbre de vie, retrouver la vie. Et non pas à l'arbre de la connaissance du bien puis du mal, j'ai besoin de trouver ci puis ça. Non, va à celui qui est la vie. Puis on a en lui, et c'est vraiment la question de focus, où est mon focus, ma concentration? Je pense que la chute est venue parce qu'il a regardé avec les yeux sur le mauvais arbre. Maintenant, on a besoin aussi de voir, de reconnaître qui est au contrôle dans notre vie. Pour nous préserver des pièges de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, puis l'orgueil de la vie. Qui sont tous des désirs que nous soyons au contrôle, mais de différentes façons. Hein? Je veux avoir ce que je veux. Je veux faire ce que je veux faire. Je veux être ce que je veux être. C'est des désirs de contrôle. C'est pour ça que on a beau mettre la sauce chrétienne avec, ça reste pareil. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, puis l'orgueil de la vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas tirer la pierre à personne. Ah, toi, t'as-tu vu, là, ta convoitise est non, mais pas bonne. Ben, c'est de la convoitise. Puis la tienne, es-tu meilleure? Ben non, c'est tout de la. Comprenez-vous? La chair, c'est de la chair. Puis ça ne peut pas plaire à Dieu. C'est par l'esprit simplement qu'on peut plaire à Dieu. Et c'est la pire supercherie que les chrétiens ont avalée au complet. Dans les milieux chrétiens, je vous dis, là, c'est la plus grande vérité, celle de notre vie en Jésus-Christ, la plus précieuse, mais la plus négligée. C'est incroyable. L'Évangile au sein. On pense que oh, l'Évangile, j'ai eu mon ticket pour aller au ciel maintenant. Non, l'Évangile, c'est toute la vie chrétienne. C'est Christ et ma vie, c'est ça l'Évangile. Et donc, puis en passant, ces différentes façons-là, souvent dans quand on met ça à la sauce chrétienne, ça peut nous donner l'impression d'être bon puis que c'est de Dieu parce que c'est à la sauce chrétienne. Mais écoutez, souvent le but, c'est de nous faire ressembler à Dieu par nous-mêmes avec ces « Ah, si je fais ça, tu sais, je vais plus ressembler à Dieu, à Jésus-Christ. » N'oubliez pas que Satan est l'expert de l'imitation puis de la contrefaçon. La Bible nous dit qu'on est transformé en la même image, mais est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous autres qui en sommes l'origine puis c'est nous qui le font? Non, c'est par son esprit. C'est Dieu qui nous transforme en image de Christ. C'est comme des contrefaçons d'essayer de faire nous-mêmes ce que Dieu lui-même seul est capable de faire. Et donc, il faut voir le danger à la contrefaçon. C'est pour ça qu'on prend toute une série pour s'asseoir ensemble puis regarder ça ensemble. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir parce que je vous dis, moi, ça fait des années que je suis chrétien, que j'ai un désir pour ces choses, puis ça fait pas longtemps que ça m'a ouvert les yeux là-dessus. Puis je sais qu'il y en a beaucoup ici qui ont ça. Puis c'est vrai, c'est pas parce qu'on n'était pas chrétien, c'est pas parce qu'on n'aimait pas le Seigneur. Au contraire, c'est un piège pour ceux qui aiment le Seigneur, qui veulent vraiment. C'est là que ça pogne encore plus. Donc on va prendre le temps là-dessus parce que c'est super important. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Amen. Amen. Qui est prêt?
Amen.
Bon, on va être trois dans l'étude. Quatre, ah non, ok, good, amen. Voulez-vous rentrer dans cette aventure de la vraie vie chrétienne, de celle que Jésus est venu donner en abondance?
Amen.
Puis je dis le mot aventure parce que oui, c'est plaisant, c'est plein de surprises, c'est plein de bénédictions, mais c'est de longue haleine. Une aventure, là, tu pars avec une petite équipe, là, c'est pas juste, comme je disais tantôt, c'est pas juste une bataille, c'est une guerre. On a besoin de persévérer dans la victoire pour se l'approprier à 100%. Écoutez un beau verset d'Hébreu 10:36. Vous avez besoin de persévérance après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Alors, pourquoi pas prendre les instants qu'on va prendre maintenant pour prier en réponse au message? Pour demander à Dieu d'utiliser les vérités qu'on va considérer dans cette série pour former lui, que Dieu forme Christ en nous à travers ces choses qu'on va considérer ensemble. Ces vérités grandes et précieuses, ces plus grandes et plus précieuses promesses de la parole de Dieu. Puis pas pour nous-mêmes, mais pour le glorifier, pour sa grande bonté, sa grâce envers nous et qu'ainsi tous sachent qu'il est le Dieu vivant et qu'il est au milieu de nous. Savez-vous, ça, si ça arrive, ça va être une réponse à la prière de Jésus lui-même. Et je vous termine là-dessus. On va laisser Jésus terminer dans la prière. Je leur ai donné, c'est Jean 17, 22, 23, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ah Seigneur, c'est merveilleux. Tu as prié ça, qu'on soit un, et c'est en toi qu'on est un. C'est pas une manufacture, c'est pas quelque chose qui origine de l'homme. Seigneur, nous sommes ton corps, et tu as formé ce corps, tu en es l'origine, tu es notre vie. On veut vivre à la lumière de toi. Seigneur, fais des choses merveilleuses à travers ce qu'on s'apprête à faire ensemble, à s'asseoir ensemble avec ces vérités merveilleuses de ta parole révélée pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.